Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 16 juillet prochain, dans le cadre du festival de Lacoste en Luberon, Ève Ruggieri propose une nouvelle version de Don Giovanni. De quoi donner des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le Don Giovanni de Mozart sur un livret de Da Ponte était aux yeux de Wagner l'opéra des opéras. Alors il y a 10 ans, c'est par ce chef-d'œuvre sulfureux qu'Ève Ruggieri avait inauguré le festival de Pierre Cardin au château de Lacoste, l'ancienne demeure du marquis de Sade, vous savez.
S'il vous plaît.
Elle récidive donc aujourd'hui et j'aurai le plaisir de l'accueillir tout à l'heure pour parler de Don Giovanni, bien sûr, mais aussi plus généralement de Don Juan.
Don Juan, comme vous dites, un personnage dont on ne sait plus très bien s'il appartient à la fiction ou à la réalité.
Et vous avez raison, Julia, on a mis le grand seigneur méchant homme, selon les termes de Molière, à toutes les sauces. Si vous le voulez, en guise de préambule, je vais essayer de faire le tri entre ce qui relève de la fiction et ce qui appartient à une certaine réalité, sachant que, comme souvent, la réalité dépasse la fiction.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Les fastes austères de l'Escurial, des grands d'Espagne à cheval jusque dans les églises, des duègnes corsetés, des nains insolents, il faut bien trouver un adjectif, des galions pansus qui déchargent leur cargaison dans la Torre del Oro de Séville. Partout, des Christs, des croix, des calvaires, d'immenses portes ouvragées marquetées, des coffres, des grilles, des cabinets de verdure embaumés. Bienvenue dans l'Espagne du siècle d'or et plus spécialement en Andalousie, à Séville justement, où l'on peut encore lire sur les dalles un peu décrépites d'une vieille chapelle l'inscription suivante. Le puissant seigneur Don Juan Mañara, chevalier de l'ordre de la Calatrava de la cité de Séville, frère majeur de la Sainte Charité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le mépris qu'il avait de soi-même aux pèlerins et pauvres désemparés, il a donné tout ce qu'il avait. Il a été la main visible de l'occulte providence, grand zélateur de l'honneur de Dieu et de la sauvegarde des âmes, homme vraiment charitable. Il est mort avec la réputation d'une grande sainteté. Il a donné l'ordre de l'ensevelir sous le portail de cette église pour y être piétiné et méprisé de tous dans la mort, puisqu'il n'a su être humble. Vous imaginez, c'est bien qu'en Espagne qu'on trouve des inscriptions comme celle-là. Ce Don Juan Miguel, Don Juan, a-t-il été le modèle du personnage mythique, incarnation de la conquête amoureuse, de l'instabilité, de la frivolité, mais aussi du défi aux institutions, à la société et jusqu'à Dieu lui-même? J'ai bien peur de devoir vous répondre non. Car en 1630, au moment où est montée ou est mise sur le théâtre la pièce de Tirso de Molina, qui elle-même est inspirée d'un autre grand dramaturge du siècle d'or espagnol, Lope de Vega, en 1630, notre Don Juan Miguel Mañara n'avait que 3 ans. Vous devriez être un petit peu jeune quand même pour servir de modèle au séducteur universel. Pourtant, s'il n'est pas le modèle de Don Juan, Don Juan n'en est pas moins son cousin réel. Si vous voulez, il est un petit peu son correspondant de chair et d'os. Nous sommes en 1641. Le jeune comte Don Miguel, je vais l'appeler Don Miguel, sera plus simple, ça permettra de faire clairement la distinction, vient d'avoir 14 ans et il assiste à la représentation de cette fameuse pièce de Tirso de Molina. La pièce s'appelle Le Burlador de Séville, c'est-à-dire Le Trompeur de Séville. Oh, cette histoire du Trompeur de Séville, elle est ancienne. Elle remonte au Moyen-Âge en vérité, et si Lope de Vega lui a donné une forme quasi définitive, il faut bien dire qu'elle se promenait déjà dans l'inconscient collectif de tout ce sud espagnol depuis bien longtemps, quasiment depuis la Reconquête. Tromper les femmes de cette façon, dit dans la pièce de Tirso di Molina, dit le valet à Don Juan, à son maître, tromper les femmes de cette façon, vous le paierez à l'heure de votre mort. Et à quoi Don Juan répond, tu me donnes là une longue échéance, bah, du coup j'ai bien le temps. Vous imaginez comme ce débauché peut marquer un jeune esprit et comme il va en l'occurrence marquer l'esprit de Don Miguel. L'histoire de ce séducteur qui néglige les plaisirs faciles pour ne s'intéresser qu'aux femmes difficiles à conquérir. Vous savez qu'il conçoit les rapports amoureux comme une véritable conquête quasi militaire. L'histoire de ce débauché cynique que rien n'arrête, pas même la peur de l'enfer, va fasciner ce jeune homme qui, simplement à la sortie du spectacle, déclare « Je veux être Don Juan ». Eh bien, il va le devenir, figurez-vous. Séville, nous raconte André Castelot, se passionna pour ses folles amours et les duels tapageurs de celui que toute la vieille cité avait accepté de baptiser Don Juan. Chaque soir, dans leur lit à panache, raconte Castelot qui s'y croit, les femmes, les jeunes filles se sentiront prises d'un étrange émoi en entendant monter le cri « Voilà Don Juan qui passe !» Et à travers les rayrasses de leur balcon, elles verront glisser dans la rue une cape sombre relevée par la garde d'une épée et rêveront qu'un soir, peut-être, leur fenêtre sera le but de l'insolente et parfois sanglante équipée. Ce Don Juan va mener une vie extravagante. Je dis Don Juan, c'est Don Miguel, vous avez bien compris.
On vous suit.
Merci, Julia, de suivre. Ce Don Miguel va mener une vie impressionnante pendant 7 années où il fait le malheur des familles, le déshonneur des jeunes femmes, parfois la mort de leurs frères quand ils ont l'audace de vouloir les venger ou rétablir l'honneur de la famille, jusqu'au roi Philippe IV, vous savez, le lugubre beau-père de Louis XIV, jusqu'au roi Philippe IV qui s'inquiète des désordres que Don Miguel sème littéralement autour de lui dans la cité andalouse. Et puis voilà qu'un jour, en 1648, Don Miguel est à la messe. Vous allez me dire, que fait-il à la messe? C'est impie, ce débauché. Mais il passe son temps dans les églises parce que c'est là qu'on rencontre les jeunes filles, évidemment. Les jeunes vierges, généralement accompagnées d'une duègne bien sévère, comme on sait les imaginer en Espagne. Il est à la messe en ce printemps 1648, donc, Don Miguel. Et il aperçoit à ce moment-là une jeune fille, effectivement chaperonnée. Elle est d'une beauté sidérante. Il est ému. Il sent que quelque chose de différent se passe. Vous voulez que je vous dise, il est en train tout simplement de tomber amoureux. C'est la première fois que ça lui arrive. Ça peut arriver à tout le monde, même à Don Juan. Qu'est-ce que vous voulez? Alors il cherche à connaître la jeune fille. Il se renseigne sur son nom. On lui dit c'est Doña Jerónima. Elle est la fille de Don Diego Carrillo de Mendoza, qui donc est le pater familias d'une des plus grandes lignées d'Andalousie. Ce comte de Maniara, Don Miguel, se fait donc présenter à Don Diego, qui évidemment essaie de le tenir à l'écart de sa famille. Enfin, à force d'un luxe de manœuvres et de savantes manigances, il finit par s'infiltrer dans la famille. Et dans la famille même de ces Mendoza, on raconte le premier échange qu'aurait eu Don Miguel avec la jeune fille. « Don Miguel, voulez-vous visiter notre jardin en attendant mon père qui ne saurait tarder ?» demande la jeune fille. Oh, c'est cousu de fil blanc, cette histoire. « Doña Jerónima, racontez-moi votre vie, lui dit Don Miguel. Ce que je fais ne vaut point la peine d'être compté. Je soigne mon père, si souvent souffrant. Je m'occupe de la maison et du jardin. Le soir, je fais de la lecture à mon malade. Et puis, j'ai mes œuvres de charité, mes visites aux indigents. Il y a tant de pauvres à Séville et à Grenade, Don Miguel. Vous savez, tant de pauvres. Oh, votre cœur, Doña Jerónima, est sans mélancolie. Il n'est que douceur. Ce n'est point comme le mien, hélas. Et voilà que Don Miguel finit par avouer qui il est, comment il se conduit généralement et toutes les misères et tous les malheurs qu'il a jusqu'à ce jour semés sur son chemin. Eh bien, ça va convaincre Doña Jerónima, cet aveu, cette espèce de conversion, disons-le, de Don Miguel, qui le 31 août 1648 va finir par épouser sa Doña Jerónima. Et vous voulez que je vous dise, leur amour conjugal sans une tache, dit-on, enfin ça c'est ce qu'on raconte, aura duré 13 années jusqu'à la mort de la jeune fille le 13 septembre 1661. Et alors là, on voit Don Miguel complètement désespéré, ravagé d'un chagrin total. Il court les églises et les monastères en hurlant « Todo es nada !» Tout tout et rien. Il est désespéré, cet homme. Et il va finir par entrer dans un ordre religieux à la suite d'un certain nombre d'hallucinations qui lui font dire que le Seigneur s'intéresse à lui et est prêt à racheter la jeunesse débauchée qu'il avait eue. Il abandonne ses palais, ses richesses. Il se fait un humble frère de la charité. Vous savez que les frères de la charité avaient, parmi leurs nombreuses occupations dans l'Espagne du siècle d'or, ils avaient la tâche très rude d'assister les condamnés à mort, qui étaient très fréquents, évidemment, très nombreux à l'époque. Après 18 mois, la communauté va nommer Don Miguel Hermano Mayor, c'est-à-dire le supérieur de la communauté. Il devient pour tous les Andalous le père des pauvres. Ses créations charitables sont connues bientôt dans toute l'Espagne et vont même, leur réputation franchira un jour les Pyrénées. Et lorsqu'il meurt en mai 1679, Don Miguel est devenu un saint homme. Au point qu'un siècle plus tard, le 13 mai 1778, donc à la fin du 18e siècle, la congrégation des rites va reconnaître comme bien fondée la cause introduite par le pape Pie VI par un décret qui fait de lui un vénérable. Un vénérable, c'est le premier pas sur le chemin de la béatification. Pourquoi pas un jour de la canonisation? Vous imaginez un peu l'allure que ça aurait, un saint Don Juan parmi les saints de l'Église catholique. Je pense que ça pourrait peut-être arriver un jour. Il faudrait néanmoins que l'opinion évolue un peu.
Un extrait sur Europe 1 de l'ouverture de Don Giovanni. À tout de suite sur Europe 1 avec Franck Ferrand, bien entendu.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui sur Europe 1, Franck, nous nous intéressons à Don Juan.
Alors quand on dit un Don Juan, Julia, comme ça, dans le langage courant, on signifie simplement un séducteur, quelqu'un qui passe d'une femme à l'autre sans trop se poser de questions. En vérité, c'est tout autre chose, Don Juan. Ce mythe qui est évidemment un des mythes fondateurs de notre culture occidentale, ce mythe qui a été si bien fondé par Tirso de Molina, n'est pas seulement celui du séducteur et de l'homme sensuel ou libertin, il est aussi le mythe du libre penseur, c'est-à-dire du libertin tel qu'on l'entendait autrefois, celui qui s'affranchit des obligations de pensée telles que la société au cours des siècles les a peu à peu défini. C'est l'homme qui se veut libre, libre contre, alors évidemment, le modèle habituel de la sexualité et le modèle conjugal, mais contre la société aussi, et au-delà, contre Dieu lui-même. Il y a dans le personnage de Don Juan un fond de sédition religieuse absolument essentiel et que va mettre en valeur, beaucoup plus encore que Tirso de Molina, Molière. Alors quand je dis Molière, je fais tout de suite la petite parenthèse, moi je suis convaincu que c'est Corneille hein, qui a écrit
ça.
Enfin, fermons la parenthèse, restons sur Molière. Et si Molière a fait du Don Juan que nous connaissons, nous, qui est le grand personnage du théâtre français du XVIIe siècle, un libre penseur, c'est d'abord dans un rapport à la religion, au moins autant qu'au sens. Et puis, avec le temps, peu à peu, évidemment, tous les grands auteurs reprendront le mythe de Don Juan. On compte plus de 60 œuvres majeures qui ont Don Juan comme thème, vous imaginez, jusqu'à nos jours. Hein, Éric Emmanuel Schmitt, il y a encore quelques années, écrivait une très jolie pièce, d'ailleurs, qui s'appelait « La nuit de Valogne » sur ce mythe de Don Juan. On a fait de Don Juan absolument à peu près tout. J'ai envie de dire aussi de temps en temps n'importe quoi. La plus belle incarnation du personnage, c'est évidemment celle que Mozart va mettre en musique sur ce livret de Da Ponte. Et alors là, on perd un peu la dimension religieuse, forcément, pour revenir essentiellement à une dimension libertine au sens volage du terme et au sens sensuel. Car quoi de plus sensuel que la musique de Mozart? Néanmoins, il y a bien chez Mozart le respect de du mythe tel qu'il existe, et notamment de la rencontre avec le commandeur, avec la statue du commandeur. Vous savez que Don Juan accepte de souper face à face avec la statue du tombeau d'un homme dont il a déshonoré la fille. Et cette confrontation va s'achever par les foudres célestes et par l'engloutissement de Don Juan, ou pour ce qui est de l'opéra, je devrais dire de Don Giovanni. Pour parler de tout ça, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Ève Ruggieri. Bonjour Ève.
Bonjour Franck.
Merci d'être avec nous. Alors, Don Giovanni, oui, c'était considéré par Wagner, mais alors je pense que Wagner n'a fait qu'exprimer une opinion très répandue, comme l'opéra des opéras. C'est l'œuvre majeure.
Oui, oui. Et c'est d'autant plus étonnant que Wagner détestait absolument tous ses éventuels concurrents de passé et à venir.
Il avait la dent dure.
Et donc là, cela dit, l'été passé, c'est plus facile de célébrer les défunts que ceux qui sont là. Mais il a dit ça et c'est vrai. Et c'est vrai. Je rajouterai à ce que vous dites, qui est très vrai, c'est-à-dire la différence entre le théâtre et l'opéra, c'est effectivement la dimension libertine, hein, d'Aponté, l'abbé libertin d'Aponté, qui est un personnage extravagant et qui va écrire le livret de l'opéra, était franc-maçon. Comme Mozart. Donc à cette dimension libertine, il y a cette dimension
initiatique en quelque sorte,
absolument,
oui,
que l'on retrouve alors tout à fait développée dans La Flûte
Enchantée, bien sûr.
Et ça, c'est une chose qui est intéressante. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est
Il faut que vous nous en disiez plus sur ce d'Aponté. Qui était-il? Parce qu'on connaît bien Molière, évidemment, on connaît Mozart, ça, oui, n'en parlons pas. Mais d'Aponté, qu'on cite systématiquement, parce qu'il est après tout l'auteur du livret,
bien
on
ne
sait pas qui il était.
Bien
en fait.
Sûr, et c'est très important, parce que ce qu'on a appelé la trilogie des opéras de Mozart, ce sont les trois opéras dont d'Aponté était le librettiste, c'est-à-dire Les Noces de Figaro, Don Giovanni et le sublime Così fan tutte, ainsi font-elles toutes, qui est complètement cynique et qui est une merveille d'opéra.
Mais
c'est un prêtre libertin.
Un prêtre?
Mais oui, bien sûr, il était prêtre. C'était l'abbé d'Aponté, Lorenzo d'Aponté, qui s'appelait pas du tout comme ça d'ailleurs. C'était le fils d'un cordonnier et il avait été pris, mécéné, on va dire, par un aristocrate qui s'appelait d'Aponté, Lorenzo d'Aponté, et qui, c'était la coutume, on donnait son nom à ceux dont on payait les études musicales, en l'occurrence, et surtout littéraires.
Alors,
et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'écriture de Don Giovanni, Casanova est de passage, lui aussi. Donc, il y aura certainement, avec Mozart, c'est pas sûr, mais la rencontre entre d'Aponté, abbé libertin, et Casanova, libertin en titre, si j'ose dire, va certainement influer beaucoup sur la tournure du livret.
Heureusement que vous parlez de Casanova, c'est très important parce que c'est vrai que dans l'esprit collectif, généralement, on a tendance à confondre un peu Don Juan et Casanova. Encore une fois, Casanova, c'est ce monsieur dont on a parlé si souvent, qui est un aventurier vénitien, etc., qui a parcouru l'Europe, grand bibliophile, personnage qui certes avait des mœurs très lestes, mais qui reste globalement très convenable. Alors que Don Giovanni, c'est un personnage...
C'est un voyou aristocrate.
C'est ça, c'est le grand seigneur méchant homme.
C'est-à-dire, il réclame le droit de cuissage, ce qui à l'époque d'ailleurs n'était pas étonnant, hein, ça se pratiquait beaucoup, surtout dans les campagnes, et puis surtout, Dieu ne l'intéresse pas, et c'est à travers le commandeur, Dieu qu'il provoque.
Alors dans l'opéra, comme d'ailleurs dans la pièce, mais ça n'est pas dans le même ordre, dans l'opéra, tout commence par une jeune femme déshonorée et un assassinat.
Un assassinat. Mais Don Giovanni, je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est tellement d'actualité. C'est-à-dire que c'est un film à suspense. Ça commence par Donna Anna qui sort à moitié dépoitraillée parce qu'il a essayé de lui arracher sa chemise de nuit pour la violer, en appelant au secours le commandeur, qui est un personnage extrêmement important, qui arrive. Et que fait Don Giovanni devant ce vieillard? Il sort son épée, il le tue. Il le tue avec délectation. Et l'opéra, là, je crois que le moment le plus étonnant dans l'écriture de l'opéra, c'est le moment où Don Giovanni est au-dessus du commandeur qui est couché, il enfonce son épée dans son cœur en lui disant « Allez, meurs et n'en parlons plus ». Et le commandeur, vous allez entendre sa voix, est derrière et il est haletant comme quelqu'un que le sang étouffe. Et à l'arrière-plan, il y a Leporello qui dit « Là, 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 tout ça commence très mal », qui est le valet de Don Giovanni. Et c'est trois barytons, c'est-à-dire c'est en principe la même tessiture avec des couleurs différentes. C'est sublime.
On va entendre, si vous voulez, puisqu'on en
une
parle.
Une minute, ça dure une minute. Si on rate ça, on rate tout l'opéra.
Soccorso, aiuto devo, il suo sangue, affannoso e agonizzante. Se non mal, di tante vengono.
Eve Ruggieri décrivait très bien la scène sur Europe 1. Socorso, c'est la mort du commandeur Franck dans l'extrait du Don Giovanni de Mozart.
Avec Ruggero Raimondi, qu'on vient d'entendre, avec José Van Damme, qui interprète le commandeur. C'est la version cinéma, en tout cas. Oui, oui.
C'est
qui interprète
l'Eporello. Oui. Ça, c'est la version du sublime film qui vient d'être restauré, Dieu merci.
Un film, alors, il faut dire un mot d'ailleurs de ce film de Joseph Losey, hein, qui a rendu encore plus célèbre cet opéra de Mozart.
Et rendre hommage à Daniel Toscan du Plantier, qui n'est plus de ce monde, hélas, mais qui avait lancé véritablement l'opéra au cinéma.
Alors je vous propose, on n'est pas beaucoup plus loin dans l'opéra, Non ti fidar o misera, c'est cet extraordinaire quatuor où les voix s'entremêlent, se chevauchent, se répondent, c'est sans doute parmi les airs les plus extraordinaires que Mozart a jamais composé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Mozart a été très inspiré par ce thème de Don Giovanni.
Scopro questa far.
C'est tout à fait extraordinaire. On n'a qu'une envie, évidemment, c'est de continuer, mais nous avons quand même un certain nombre de choses à dire à nos auditeurs. Oui. Vous allez présenter ce Don Giovanni, là, à Lacoste, dans quelques jours, maintenant.
Alors, je vais, effectivement, il y a une seule représentation, donc il ne faut pas se tromper de jour, hein, c'est le 16 juillet, dans ce cadre extraordinaire, qui est la carrière du château du Marquis de Sade. Et c'est un cadre naturel, avec un énorme mur de pierre, au sommet duquel il y a une tombe. C'est pour ça que l'apparition du commandeur, c'est important. Qui est celle du dernier Carrier. Il était protestant, il a demandé à être enterré sur son lieu de travail et il a enterré au-dessus de ce mur où une végétation a poussé. C'est hallucinant et c'est exactement le cadre pour cet opéra qui est véritablement, je vous le disais tout à l'heure, un roman policier, c'est un film policier.
L'avantage quand c'est Eve Ruggieri qui parle, c'est qu'on n'a pas besoin de préciser qui est au micro. Nous nous retrouvons dans un instant en compagnie de Don Juan, de Don Giovanni, de la musique de Mozart et aussi, disons-le, de tout le soufre que Don Giovanni trimballe derrière lui.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Don Giovanni est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Nous sommes toujours en compagnie de la productrice, animatrice de télévision et de radio, spécialiste musique classique et d'opéra, Eve Ruggieri.
Merci, merci.
Eve Ruggieri, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en ce tout début d'été.
C'est un plaisir partagé.
Alors, Don Giovanni, c'est la mouture la plus célèbre, en quelque sorte, en tout cas la plus musicale, de ce mythe de Don Juan, qui lui-même s'appuie sur tout ce qui pouvait se passer en sous-main et en secret dans cette Espagne du siècle d'or. Oui. Je parlais de Maniara tout à l'heure, de Don Miguel, j'ai oublié de préciser un aspect important, Eve, on en parlait pendant la publicité.
Oui, c'est qu'en fait, son destin a commencé à tourner mal lorsqu'il a violé sa demi-sœur. Son père avait eu une fille d'une liaison qu'il avait eue. Et lorsque Don Giovanni apprend que c'est sa demi-sœur, il est de plus en plus enthousiaste. Parce que ce qu'il cherche, c'est à provoquer et c'est à détruire tout ce qui existe de noble et de beau.
Et c'est ce qu'il y a de fascinant dans le mythe lui-même. C'est que ce personnage prend plaisir, mais c'est plus qu'un plaisir. Il cherche presque philosophiquement repousser constamment les limites. Pas forcément du mal, mais de la transgression. C'est pas tout à fait la même chose.
C'est ça. Il dit Dieu n'existe pas, je vais vous le prouver. Donc il va dans les couvents, il viole les religieuses, parce que ça, c'est excitant, une religieuse. Et lorsqu'il apprend que c'est sa demi-sœur, là, il trouve ça épatant. Donc c'est une histoire qui est à la fois tragique, parce qu'elle reflète quand même un état d'esprit qui était que l'aristocratie, la grande aristocratie, pas les petites aristocraties de province, avait tous les droits.
Ah oui,
et ils s'en privaient pas. Et l'Espagne à laquelle vous faites allusion, c'est d'un côté l'Inquisition.
Et voilà.
Qui écrase et tue, et de l'autre côté, ces grands seigneurs qui font la même chose.
C'est quand même incroyable.
Tout en se rendant évidemment à toutes les processions.
Et assistant à toutes les messes
possibles. C'est un thriller avec la plus belle musique jamais écrite et une distribution que j'ai réunie où ils sont
épatants. On va y venir tout à l'heure, Ève. Je voudrais juste rester en Espagne quelques secondes pour donner un exemple des diableries qui avaient cours dans ce siècle d'or espagnol. Dites-vous que le duc d'Olivares lui-même, qui quand même était le premier ministre du roi Philippe IV dont je parlais tout à l'heure, ce duc d'Olivares passait son temps à chercher par tous les moyens à déshonorer. Alors lui, carrément, il aimait déshonorer de jeunes religieuses.
Mais
donc
oui,
on n'y allait pas par quatre chemins.
C'était très porté, la religieuse.
Et un jour, vous savez, c'est Maragnon, dans un très beau livre paru au milieu du siècle dernier, qui raconte ça. Il dit qu'un jour, alors qu'il parlait avec le roi, un certain nombre de personnalités de la cour, on fait l'éloge de la beauté d'une certaine sœur Marguerite de la Croix. Et certaines versions ajoutent que la conversation n'était pas due au hasard, mais qu'elle avait été intentionnellement dirigée pour capter l'attention du roi sur, justement, cette jeune fille. Eh bien, le monarque, évidemment, est plein de curiosité. Il vient au parloir sous un déguisement pour essayer de voir la nonne, et il va tomber dans l'instant fou de désir pour cette jeune femme. Et dès cet instant, nous raconte Maragnon, il ne vécut que dans l'espoir d'obtenir ses faveurs. Les présents et les offres du comte, la ruse du protonotaire, la proximité de sa maison favorisèrent le désir du roi. En effet, on vivait dans une maison qui était, enfin quand je dis on, quand Maniaron dit on, c'est-à-dire la cour, hein, le roi et les quelques amis qui sont là avec lui, vivaient juste à côté du cloître. Finalement, on organise un rendez-vous et là, c'est assez extraordinaire parce que la supérieure, l'ayant appris, nous raconte Maragnon, défendit sa nonnette de la luxure royale avec un recours théâtral bien dans la veine espagnole. Elle la fit se coucher dans sa cellule, sur une estrade entourée de cierges, avec un crucifix entre les mains, comme si elle était morte. Don Geronimo, qui précédait le roi et le comte-duc dans son équipée nocturne par la cave à charbon de leur maison, resta horrifié à contempler ce spectacle. Il recula et il fit faire demi-tour au roi. On voit que dans ces affaires, pires turpitudes...
Est présente.
Hein, mais la comédie aussi. Il y a constamment une forme de comédie retrouve dans la pièce de Molière, bien sûr, et qu'on retrouve dans l'opéra d'A Ponte.
Dans l'opéra, pas trop. C'est vraiment tragique du début. C'est vraiment, je disais tout à l'heure, un thriller. Ça commence par l'assassinat et la scène de la tentative de viol de la petite paysanne dans le livret. Nous, on montre ça d'une manière contemporaine, mais Zerline, au moment où elle est en train de se marier.
Oui, mais...
C'est-à-dire, il arrive, il dit, c'est le droit de cuissage. Et d'un seul coup, les paysans se révoltent. Et c'est pour ça que ça a été mal ressenti lors de la création. Parce que l'empereur a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On se révolte contre le Seigneur et on chante Viva la Liberta. C'était les idées nouvelles.
Ça,
c'était la révolution en marche.
C'est le côté franc-maçon
de
l'opéra.
Ça a été critiqué très vertement.
Évidemment, Don Juan ne serait rien sans Sganarelle, Don Giovanni ne serait rien sans Leporello.
C'est
nous allons
complice.
Entendre le célèbre air du catalogue au moment où Leporello déplore évidemment les tristes habitudes de son maître et dit qu'il a fait 1003 conquêtes, 1000 lettrés.
Il s'en délecte, Leporello, de dire à Donna Anna, qui charge désespérément Don Giovanni, de dire « Mais attendez, ma pauvre amie, mais il y en a eu 2003 en Espagne avant vous. » Et puis alors en Italie, vous allez voir. Et puis alors, Donna Elvire, pardon.
On écoute justement Leporello. Ah, la longue liste, le catalogue.
Mille lettres,
les
comptes. Vous imaginez la tête de la malheureuse épouse trompée.
Oui, c'est terrible. Alors, ça, c'est l'aspect sensuel du personnage. Il y a un aspect plus philosophique et plus religieux. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Au cœur de Don Giovanni aujourd'hui sur Europe 1, Franck.
Nous sommes en plein opéra avec Ève Ruggieri. Vous imaginez, c'est la fête aujourd'hui sur Europe 1. Et Ève était en train de nous dire à l'instant que c'est un opéra en trompe-l'œil en fait.
Absolument.
Chacune de ces femmes a ses motivations ouvertes et ses motivations cachées.
Il y a ce qu'elles chantent et ce qu'elles pensent. Et c'est là où Daponte, en bon abbé libertin, connaissant bien les femmes, ne se trompe pas et c'est pas notre honneur. Parce que Donna Anna, qui a failli être violée au début, est-ce qu'elle recherche avec tellement d'acharnement Don Giovanni pour le punir ou parce qu'elle a envie de le revoir? Elle a été séduite sans oser se l'avouer. Donna Elvire, son épouse, trompée je ne sais combien de fois, voir le catalogue, est-ce qu'elle le recherche pour le faire rentrer dans le droit chemin ou pour se le ramener à elle? Et enfin, même Zerline, la petite Zerline, qui est sur le point de céder quand il chante « Donne-moi la main » qui l'entraîne avant son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle se dit « Pourquoi j'épouserai un paysan si je peux avoir le Seigneur hein ?» Tout ça, toutes les femmes chantent quelque chose qu'elles ne ressentent pas. Ce qu'elles ressentent, c'est beaucoup plus pervers et beaucoup moins exprimable. C'est ça qui est intéressant. C'est un opéra qui est fascinant.
D'une profondeur, plus on le connaît.
Aussi
plus
bien
on...
le livret que la partition. Et ça demande justement aux chanteurs des dons de comédiens importants.
Alors, j'ai Geoffroy qui me dit, dans l'extrait passé à l'antenne, le commandeur est interprété par John McCurdy. Pourquoi n'a-t-il pas été cité? Eh bien voilà, c'est fait, cher Geoffroy. Nous n'avons pas cité toutes les distributions.
C'était une formidable distribution. Oui. De toute façon, les deux, celle du film et celle du disque, de l'enregistrement, sont formidables.
Alors, ça c'est l'aspect libertin au sens classique de Don Giovanni. Oui. Mais, que ce soit dans le mythe espagnol, dans la pièce de théâtre française ou dans l'opéra de Mozart écrit en italien et mis en musique donc par Mozart, il y a une autre dimension. Oui. C'est cette dimension du défi. L'histoire de Don Giovanni, c'est l'histoire d'un défi. Jusqu'où ira-t-il?
Jusqu'au bout, il est irréductible. Croit pas en Dieu et jusqu'au bout, il dira non et il refusera de se repentir. Tout à fait à la fin, lorsque la statue du commandeur qui l'a invité à dîner, Don Giovanni l'a invité à dîner pour prouver que ça n'existe pas. Le commandeur arrive, sa statue, et lui dit « Repends-toi et voilà, et tu seras sauvé. » Et par trois fois, le chant du coq, il dira non.
Eh oui,
non, non, non et non, et disparaît dans les flammes de l'enfer.
Je vous propose d'entendre cette confrontation maintenant. Ce John McCurdy qui interprète
ça fait peur.
Le commandeur.
C'est un opéra qui est terrifiant. Sublime et terrifiant.
Ruggero Raimondi qui interprète
Don Giovanni.
Et José Vanda, mais le Leporello qu'on entend un peu dans le fond. Ruggero Raimondi qu'on verra d'ailleurs sur France 3 dans l'émission de ce soir au Théâtre d'Orange. Alors, cet extraordinaire opéra, vous avez eu envie d'en donner une version moderne.
Contemporaine.
Contemporaine.
Parce qu'aujourd'hui, Don Giovanni, ça serait qui? L'héritier d'une riche famille industrielle, qui a beaucoup d'argent, qui est un coureur
invétérant,
et qui a son attaché de presse, Leporello, qui est le complice de toutes ces frasques. Et puis voilà, et puis pioche dans l'entreprise familiale les plus jolies filles. C'est comme ça que ça se passerait dans Giovanni. Et j'ai la chance d'avoir un donjon qui est une bombe, comme on dit aujourd'hui.
Ah, carrément.
Christian Elmer, et qui chante, il a une voix incroyable.
Une voix de basse, évidemment.
Bon. Côté Don Giovanni, s'il n'est pas bon, on fait autre chose, parce que c'est pas la peine. Et d'avoir une distribution où la moyenne d'âge est de 25 ans.
Ah là là, oui.
Donc, ils sont des comédiens.
D'une fraîcheur incroyable.
Ah oui, et puis j'ai auditionné, vraiment, j'ai choisi ce qu'il y a de mieux dans les voix actuelles.
Je le dis parce que vous n'oserez pas le dire.
Oui.
Vous avez découvert un certain nombre de talents, quand même.
Oui, j'ai eu cette
chance. Des Nathalie Dosset, des Roberto Alagna, etc.
Bartoli, entre autres.
Et Cécile Bartoli,
autres.
C'est vous qui les avez découverts,
oui,
à votre
oui. Mais c'est bon, j'ai eu la chance de les entendre avant tout le monde et de les faire venir en France.
Mais Roberto, de les entendre au sens propre et ancien
oui, les
du
écouter,
terme.
Moi, j'auditionne énormément pour arriver à trouver mes distributions. Et là, je vous dis, ils sont tous extraordinaires. C'est Jean-François Vencinguerra qui fait la mise en scène. Et il va y
donc
avoir
dans cette
sport.
Carrière extraordinaire.
Oui, vous imaginez l'apparition du commandeur au sommet du mur dans la nuit avec des costumes de Pierre Cardin. Donc toute la production est sous le signe comme ça de l'avant-garde. Et ils sont, évidemment, ils chantent d'abord. Ce que je cherche d'abord, c'est la qualité musicale. Mais après, il y a le fait qu'aujourd'hui, des jeunes qui vont voir l'opéra vont voir un monde qu'ils connaissent, qui est le leur. Ils ne se retrouvent pas avec des perruques, des robes à paniers. Mais encore faut-il que ce soit beau. Parce que si ce n'est pas beau, ce n'est pas la peine. On ne va pas à l'opéra pour voir des scènes avec une chaise en paille d'un côté. Non, mais on voit ça de temps en temps. L'opéra, ce n'est pas ça.
Ça peut être contemporain et beau.
Et beau.
C'est la première fois que Pierre Cardin participe à une des créations présentées
alors,
chez lui, non ?
Dans le cadre du festival, c'est la première fois qu'il fait des costumes qui sont mais magnifiques. Alors, une palette de couleurs incroyable.
Pour ceux qui voudraient réserver, j'ai un numéro de téléphone. Le temps que je le retrouve dans mes papiers, on va écouter Finkelwind.
On va le donner à Franck. Finkelwind,
taglia la testa, una gran festa a preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca minore, te con quella cerca minore, cerca minore, cerca minore. Senza pudordinello d'andasia, il minuetto, chi la follia, chi l'alemanna pare balar, chi il minuetto pare balar, chi la follia pare balar, chi l'alemanna pare balar. E ti apre tanto dall'altro canto, con questa e quella vomoreggiar, vomoreggiar, vomoreggiar. Alla melista, domma mattina, una decina deve montare.
Et tout le monde chante en régie sur ce grand air de Mozart. J'ai le numéro de téléphone voilà, pour réserver si vous voulez aller vous assister à cette nouvelle mouture d'un Don Giovanni juvénile, nous dit Eve Ruggieri.
Absolument, et comme il n'y a qu'une représentation
le 16 juillet prochain, 04 90, donc 04 90 75 93 12. Une seule représentation, c'est quand même assez frustrant ça, non ? Vous n'avez pas envie d'en donner d'autres ?
Oui, mais si, moi j'avais envie, mais il y avait d'autres programmations qui étaient déjà arrêtées, donc voilà, ça se fait comme ça. Mais bon, bah très bien. On va mettre tout notre cœur dans cette soirée-là du 16 juillet.
Merci Eve d'avoir
Merci
mis tout votre cœur dans cette évocation d'un personnage qui était compliqué à raconter puisque c'est à la fois un mythe espagnol, c'est un grand personnage du théâtre français, c'est un personnage du roman 19e et 20e.
Ici, on aurait succombé toutes les quatre. Hein. C'est pas la peine de se donner.
Oh, avec difficulté quand même. Hein.
Oh. À Don Giovanni.
À Don Giovanni.
Vous savez, les spécialistes.
Une lutte intérieure peut-être. Je concède.
Mais plus la lutte est longue et puis le moment où on cède est agréable.
Vous n'avez pas tort, Eve.
Finalement, Julia est peut-être la plus sage de toutes ces femmes qui m'entourent
aujourd'hui.
Enfin, c'est ce qu'elle dit.
Oui, je suis à l'antenne.
Céline et moi n'avons rien dit. Hein.